France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Victoire sans enthousiasme, victoire sans gloire, réélection sans triomphe. Eh ben dis donc, depuis hier soir, le champagne est tiède et les petits fours tout mous. Les mots qui viennent parlent de pays fracturés, de fragilité. On en parlait il y a une heure dans cette émission. C'est fou comme on a parfois le sentiment que les étrangers sont plus contents que nous de l'issue de ce rendez-vous électoral. Parce que le score du Rassemblement National n'a jamais été aussi haut, parce que le taux d'abstention n'a jamais été aussi haut. Tout cela est vrai, et aussi parce que ce qui monte, c'est la petite musique du président mal élu, du gagnant qui est en fait le perdant, et inversement. Jamais on n'a autant parlé de troisième tour législatif aussi vite et aussi clairement de la part des deux extrêmes, quand les partis traditionnels sont plutôt en ce moment occupés à leur survie. Comme si cette fois, avec une France en plusieurs morceaux, on pouvait faire mentir cette loi, disant que les Français donnent toujours une majorité pour gouverner à un président fraîchement élu, même pour la deuxième fois. Tout ça nous parle d'un président qui n'aura pas ses 100 jours et qui le sait. C'est peut-être ce que contient la phrase « Le vote m'oblige pour les années à venir ». Macron 2 a dit qu'il gouvernerait autrement. Il sait que la vie sera plus compliquée que lorsqu'il n'était que Macron 1. On en parle ce soir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Guy. Bonsoir et bienvenue,
oui.
Guy.
Bonsoir, merci de prendre mon appel et félicitations à votre émission, à tous les journalistes et la technique. Voilà mon état
Allez-y.
D'esprit. J'ai voté Macron suite, effectivement, pour barrer l'arrivée d'un Le Pen qui monte. De plus en plus, l'écart se restreint. Les villes rurales, où je suis dans une petite commune rurale, 56%, il n'y a pas de problème, et je ne comprends pas pourquoi ça monte. Bref, il va falloir que maintenant Macron 2 prenne d'autres chaussures que Macron 1 et intervienne pour, disons, il a une tâche énorme et très dangereuse si elle ne réussit pas, c'est de réunir la France, parce que Chirac avait bien signalé la fracture, mais il n'a rien fait. Bon, Hollande, je ne dis pas, Macron 1, je ne dis pas non plus, il n'a pas, disons, il fait des promesses. Alors, je voudrais savoir si le gouvernement qui va être nommé après la démission de M. Castex, d'abord, est-ce que ce sera un homme de son harem LREM qui va décider effectivement des choix de ministres? Est-ce qu'on peut envisager un choix de ministre de... Moi, pour ma part, de gauche, j'entends. Bien sûr, est-ce qu'on va trouver un ministre de gauche, Macron, compatible, qui ferait beaucoup de bien? Moralement, d'être écouté, d'être entendu et d'avoir quelqu'un qui pense un peu à ses classes moyennes, ses petites classes, plutôt qu'aux classes hautes.
Les volontaires, levez-vous, ceux qui entendent Guy au moment où on se parle. Merci beaucoup pour votre question et pour cette entrée en matière. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h, la quasi-totalité du service politique de France Inter. Et là, donc, vous l'aurez, votre réponse, Guy. Yael Gauze est là. Élodie Forest, vous aviez suivi le Front National. Maxence Lambrecq est là aussi. Simon Le Baron, vous suivez. Emmanuel
Mais
Macron.
Tout à fait, bonsoir.
Voilà. Et Yael Gauze, évidemment, c'est vous le patron, donc c'est à vous que je vais poser d'abord la question, en tout cas, c'est vous qui allez essayer de répondre à la question de Guy. Qu'est-ce qu'on imagine?
On se pose la même question que Guy.
D'une entrée à l'intérieur d'un gouvernement.
Il faut que Guy sache qu'on se pose exactement la même question que lui en ce moment, et que tout le gouvernement actuel, gouvernement sortant, qui s'apprête à être démissionné, effectivement, dans les jours qui viennent, on parle de lundi 2 mai, ou plutôt vendredi, mais plutôt la semaine prochaine, c'est la question que se posent les ministres eux-mêmes, ceux qui ne sont pas sûrs d'être reconduits, ceux qui espèrent l'être, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, c'est le sphinx en ce moment. C'est lui qui sait comment il va composer sa partition, ou qu'il ne le sait pas encore d'ailleurs. Il écoute énormément, mais il ne donne pas d'indices.
Mm-hmm.
Et quand vous voyez des informations parfois sourcées, Élysée, proche Élysée, est-ce que c'est Emmanuel Macron lui-même? Pas toujours. Donc prudence sur la tonalité. On sera peut-être surpris de ce que veut faire Emmanuel Macron. En tout cas, il a laissé entendre effectivement qu'il devait tenir compte, dès l'entre-deux tours, discours de Marseille au Pharo, d'un virage écologique à prendre, tenir compte du vote gauche, vote utile qui a eu lieu au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, et donc ensuite le report des votes dont il a bénéficié plus largement que Marine Le Pen de la part des électeurs de Mélenchon hier, dimanche. Quel profil à gauche On a des noms. Il y a.
Ah oui. Allez-y.
Non, mais il y a des noms qui tournent.
Tous les noms qu'on va donner ne sont pas choisis.
Ne sont pas choisis.
Ah oui.
Elisabeth Guigou, François Rebsamen, ce genre de profil déjà expérimenté.
C'est méchant. Voilà. C'est pas la jeune garde.
Mais voilà. Mais vous avez la bonne réponse, Fabienne. Mmh. Donc comment fait Emmanuel Macron? Qui va-t-il chercher? Du côté des écologistes? Est-ce qu'il faut décrocher un Yannick Jadot? Mais Yannick Jadot se laissera-t-il piéger dans ce nouveau gouvernement? Rien n'est moins sûr. Mmh. Un Pascal Canfin, mais ça c'est déjà un écologiste de la Macronie qui siège actuellement à Strasbourg, au Parlement européen. Donc voilà, on est dans l'expectative nous-mêmes.
Maxence.
Non, c'est possible qu'une figure de gauche l'emporte et arrive à Matignon, mais tous nos regards sont tournés vers la rue de Varennes, alors qu'il faut continuer à regarder la rue du Faubourg Saint-Honoré et le bureau attenant au président, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. On le dit parfois muraille de Chine, et il est vraiment au cœur de la présidence Macron.
Ça veut dire quoi muraille de Chine? Excusez-moi.
Ça veut dire qu'il bloque pas mal de tout ce qu'il refuse. C'est-à-dire qu'il est l'interface entre le gouvernement.
Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas jusqu'au bureau du président.
Il y a des choses en tout cas qui sont filtrées. C'est la tour de contrôle numéro 1. Et si Alexis Kohler reste en place pendant le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, pour beaucoup de ministres, ça voudra dire qu'il ne changera pas de méthode, il ne changera pas de logiciel. Il gardera cet homme de confiance avec lui et il aura beau mettre quelqu'un d'autre à Matignon, le secrétaire général de l'Élysée gardera la main sur beaucoup de dossiers.
Simon Le Baron.
Juste pour répondre à la question de Guy, il avait envie de savoir si le ou la future premier ou première ministre pouvait venir de la gauche. Ça avait l'air de l'intéresser, Guy. Nous, on nous dit, oui, idéalement, vu la configuration du premier tour de l'élection présidentielle et la tonalité qu'a donné Emmanuel Macron à son entre-deux-tours pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour parler aux électeurs de Yannick Jadot, idéalement, il faudrait quelqu'un qui vienne de la gauche. Mais il y a tellement de qualités à réunir que finalement, si cette personne, ce futur chef du gouvernement, vient de la droite et qu'il y a un équilibre dans son équipe avec des personnalités identifiées qui sont, qui parlent aux électeurs de gauche, ce sera pas un critère indispensable.
Mais y a cette phrase qu'on a déjà tournée toute la soirée d'hier et qu'on va probablement retourner encore d'ailleurs jusqu'à la désignation d'un gouvernement. Oui, alors le vote m'oblige et gouverner autrement.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous qui avez un logiciel Macron peut-être?
On a posé la question à Emmanuel Macron directement. Il a dit... Pour l'instant, je ne sais pas moi-même.
Ah bah.
Je vais devoir inventer.
Du grand débat permanent.
Le grand débat permanent. Il ne le sait pas encore.
Méthode horizontale.
La confidence qu'on peut faire à Guy ce soir par rapport au logiciel macronien, c'est qu'Emmanuel Macron a été très frappé en allant à Belfort. C'était il y a un mois et demi. Je parle sous contrôle de Maxence Lambrec.
Oui, j'y étais, mais c'était peut-être un peu plus que ça. Ouais,
pour relancer la filière nucléaire. Dans son avion, il y avait Jean-Pierre Chevènement, qui va lui-même lancer un nouveau parti, mercredi. Il y avait Barbara Pompili, issue, elle, des écologistes, ministre de l'écologie, et puis Bruno Le Maire. Et Emmanuel Macron était très fier d'avoir mis ces trois personnes qui se combattaient à mort politiquement avant, dans le même avion. Donc l'esprit qui va être celui d'Emmanuel Macron pour après, c'est un maximum d'union nationale. Mais jusqu'où? That is the question.
Comment on lit quand même, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a pointées depuis hier soir et qu'on voit de manière extrêmement claire. C'est vers vous que j'ai envie de me tourner, Élodie Forêt, notamment sur ce découpage qui a l'air assez simple, peut-être trop simpliste, qui dit les grandes villes à Emmanuel Macron, les petites villes à Marine Le Pen. Donc voilà comment aujourd'hui la France se découpe. Donc voilà quelle est la lecture qu'il va devoir faire de la France au moment de faire ses choix. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou pas?
Alors je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais après il y a des chiffres, ça veut dire qu'il y a plus de 18 000 communes au second tour qui ont mis en tête Marine Le Pen. C'est 28 départements aussi qui ont mis en tête Marine Le Pen. Donc je ne sais pas si c'est aussi simpliste dans le sens où on ne peut pas forcément résumer un vote en disant...
Du coup, ça veut dire qu'il y a 73 des départements qui sont de fait, il y a 73 départements qui sont sous bannière Macron.
Ouais.
De fait, il y a 17 000 communes qui sont sous bannière Macron, s'il y en a 18 000 qui sont sous bannière Marine Le Pen.
Ce qui est sûr, c'est que ça augmente par rapport à 2017. Ce qui est sûr, c'est qu'elle gagne du terrain et le ressort... Alors, j'entendais Guy qui disait, je ne comprends pas parce que, par exemple, dans sa commune, il n'y a pas d'insécurité et pourtant, je crois qu'il a dit qu'elle avait fait 56%, si j'ai bien entendu, au second tour. Sur cette campagne-là, je ne suis pas sûre, moi, en ayant fait du terrain pendant 7 mois, que ce soit effectivement le sentiment d'insécurité qui ait fait voter pour Marine Le Pen, mais plus un sentiment d'abandon. Le pouvoir d'achat sur lequel elle a beaucoup joué pendant 7 mois, c'est ça qu'on a entendu nous dans nos déplacements sur les marchés. C'est on s'en sort pas, on a du mal à joindre les deux bouts, l'essence ça coûte trop cher. Quand je vais au travail, je vais arrêter de travailler parce que je n'arrive pas en fait à assumer les frais d'essence, etc. Et je pense que ça a été plus ça le moteur sur cette campagne-là que ce sentiment d'insécurité qui a pu être le moteur peut-être sur des campagnes précédentes.
Simon est avec nous. Bonsoir Simon. Pas vous Simon.
Oui. Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir Simon.
Allez-y.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ma question, en fait, elle est toute simple. C'est plutôt une idée. Je pense qu'il y a une manière... alors moi, je suis un abstentionniste du second tour. Je pense qu'Emmanuel Macron a la possibilité de mettre tout le monde d'accord assez rapidement, d'ailleurs, de manière très objective et très simple. C'est qu'il y a une idée. Tous les observateurs sont d'accord pour dire que c'est un peu, ça doit être un peu la priorité. C'est d'ailleurs une idée qui se retrouvait à la fois dans le programme de Marine Le Pen et dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est la question de la proportionnelle à l'Assemblée. On a des élections législatives dans quelques semaines. Je pense que si Macron fait en sorte qu'il y ait une dose de proportionnelle à l'Assemblée lors des prochaines législatives, eh ben, il aura montré qu'il a pris en compte tout le monde et que l'important, au final, c'est que tout le monde se sente, à un moment donné, représenté. Voilà.
Merci, Simon. Sauf que dans un mois, c'est très très court, Yael Gauze.
Et là, Simon, on est obligé de vous dire que ça sera pour 2027, au mieux, parce que la proportionnelle aux législatives, on ne peut pas changer les règles si près de l'élection. Le 12 juin, 19 juin, c'est demain. Le processus est déjà lancé. Le 20 mai, 18h, c'est la deadline, le dernier moment pour pouvoir être candidat aux législatives. Et donc, ça ne se change pas comme ça, un mode de scrutin, si près de l'élection. Il aurait fallu le faire avant. C'est l'un des ratés du quinquennat qui s'est achevé, puisqu'en 2018, la grande réforme des institutions a été avortée, on se souvient, pour cause d'affaires Benalla et de blocage au Sénat. Donc, tout ça est resté lettre morte. Et c'est le chantier, un des chantiers prioritaires, évidemment, le renouveau démocratique, la méthode nouvelle de gouvernement plus concertée, le risque du mois de juin, on verra, le rééquilibrage peut se faire dans les urnes. Le risque aujourd'hui, ce qu'on dit dans la majorité et chez Emmanuel Macron, c'est d'avoir une assemblée qui ne représente pas la photo qu'on a eue hier dimanche de la France politique, coupée un peu en deux, on l'a dit, ou en bloc, mais qu'on ait une surreprésentation liée au mode de scrutin majoritaire à deux tours, une surreprésentation des forces d'Emmanuel Macron.
Et ça, j'ai envie de dire, Simon Le Baron, c'est une réalité, c'est lié effectivement au mode de scrutin, donc la réponse est même oui, il n'y aura pas une représentation équivalente à ce qu'on a vu au premier et au deuxième tour à l'Assemblée, ça c'est sûr.
Ah, ça paraît sûr. Alors traditionnellement, depuis le quinquennat et la concomitance de l'élection présidentielle et de l'élection législative, il y a toujours cet effet de souffle pour le président élu qui obtient une large majorité à l'Assemblée nationale. On se souvient qu'en 2017, on n'attendait pas une majorité aussi importante pour Emmanuel Macron. Ça avait été finalement un raz-de-marée en marche. Est-ce que ce sera le cas là? Normalement, effectivement, ce calendrier électoral joue en faveur très largement du président élu, mais il y a une recomposition politique qui fait qu'on est dans un tripartisme quasiment désormais avec ces trois pôles qu'on a vu effectivement incarnés par Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sans doute Emmanuel Macron aura-t-il une majorité, en tout cas on peut l'imaginer, mais ça risque d'être quand même beaucoup plus compliqué pour lui. C'est vrai que il y a cette inquiétude presque qui est paradoxale en Macronie de se dire peut-être qu'on aura une majorité trop importante, comme le disait Yael, avec des oppositions qui n'existent pas ou plus, et c'est pas non plus une bonne nouvelle démocratique, même si Emmanuel Macron lui a tout fait pour tuer, et on le sait, les oppositions républicaines de gauche et de droite modérées. Mais avec cette nouvelle donne politique, mais finalement peut-être que l'enjeu et ce qui va sortir des urnes en juin sera un peu plus compliqué que prévu pour lui.
Est-ce qu'on peut faire un compte? Combien il y a de Maxence, je veux pas vous piéger les uns les autres, combien il y a de députés La République En Marche en ce moment dans l'hémicycle?
Un tout petit peu en dessous de 289, on est à 275, quelque chose comme ça. Il y en a 55 députés Modem, donc ils ont clairement Modem et En Marche la majorité. Il n'y a plus que 6 députés RN, il y en avait 7 au début, et ils peuvent ne pas avoir de groupe. Le RN peut ne pas avoir de groupe à l'issue des législatives.
C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on est là en train de parler de totale recomposition. Mais est-ce qu'on parle vraiment de recomposition sur ces députés de La République En Marche? Il y en a un certain nombre qui étaient des néo-députés et qui probablement vont revenir à leur vie d'avant. Il y en a sûrement un certain nombre.
Petite minorité, une trentaine. La plupart veulent poursuivre l'aventure.
Alors voilà, donc s'il y en a seulement une trentaine, après mathématiquement, le nombre que Emmanuel Macron a besoin besoin d'avoir, le nombre de députés qu'il a besoin d'avoir n'est pas si gigantesque qu'on a l'air de le penser quand on entend la petite musique de cette fin de deuxième tour.
La difficulté, il l'a dit hier dans son discours au Champ de Mars, c'est que ce seront des années difficiles. Ce ne sera pas un quinquennat tranquille. Donc, il va falloir pour lui une stabilité à l'Assemblée pour pouvoir gouverner, faire les réformes prévues. La difficulté pour lui, c'est qu'aujourd'hui, la majorité était gérée. Christophe Castaner, l'homme fort au Parlement, le Modem à côté, Patrick Mignola, et tout ça fonctionnait en majorité absolue avec ces deux groupes, LREM et Modem. Le plus probable dans les jours qui viennent, c'est qu'il y ait fusion de ces deux partis politiques pour en créer un nouveau, tout en gardant aussi les autres forces autour en satellite, Horizon d'Edouard Philippe, Agir de Franck Riester, tous ces partis dont on parle assez pas très connu en réalité, Territoire de Progrès, qui est un club d'anciens socialistes autour d'Emmanuel Macron, en commun, qui est le mouvement de Barbara Pompili. Enfin, tout ça, ce sont des petits satellites autour du pôle majoritaire. La question, c'est, est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue avec LREM et Modem encore, comme 2017-2022, le quinquennat qui s'achève, ou est-ce qu'il faut partager les forces avec toutes ces chapelles? Le danger de toutes ces chapelles, c'est que ça ralentira forcément l'action gouvernementale d'Emmanuel Macron, parce que ça laisse plus de temps d'autonomie pour des sous-groupes.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau raz-de-marée, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire tout le travail qui a été fait en 2017. Lorsqu'on entend parler à la fois du côté des mélenchonistes, mais aussi du côté du Front National, on a l'impression que chacun va pouvoir arriver avec son énorme bloc et que tout changera. En réalité, on part quand même sur un acquis dans cette Assemblée nationale qui reste un acquis favorable au président sortant, quel que soit le mode de calcul, non ?
Oui, et c'est surtout lié à la participation, l'enjeu hein, pour nos auditeurs, 12 et 19 juin, moins il y aura de participants, et en général c'est le camp des perdants qui se démobilise, la présidentielle, moins d'un électeur sur deux aux urnes.
Il y a fait gueule de bois, ça s'appelle.
Mais du coup, ça favorise le camp du gagnant qui, mathématiquement, rafle la mise.
La moitié des électeurs.
The winner takes all.
C'est sûr que ça, c'est un danger pour le RN, c'est que les classes populaires qui votent en masse pour le parti à la présidentielle se mobilisent généralement beaucoup moins pour les législatives. Donc c'est vraiment un danger pour eux parce qu'effectivement, et Maxence le disait très bien tout à l'heure, c'est l'objectif là, c'est vraiment d'avoir un groupe cette année. Il faut 15 députés. C'est pas du tout joué qu'il les ait.
Est-ce qu'il... Pardon, allez-y Maxence.
Non, Simon, notre auditeur, nous parlait de la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale aujourd'hui, si on l'applique, c'est sans doute un gouvernement impossible. Parce que c'est trois gros tiers très forts et il y aurait à ce moment-là 150 députés RN, 150 députés insoumis, 200 députés En Marche et ça ne fait pas une majorité et ça ne fait pas un gouvernement. Donc est-ce que Emmanuel Macron va prendre ce pari, ce risque d'aller jusqu'à la proportionnelle intégrale? Il s'y est montré favorable à Pau face à François Bayrou, forcément, face à celui qui l'attend depuis toute sa vie. Mais va-t-il prendre ce risque? Va-t-il aussi imposer des mid-terms? Il a évoqué cette idée au milieu d'un septennat, à peu près, au bout de 3 ans et demi, des élections législatives pour remettre...
Mais tout ça, c'est pour un futur, incertain, 2027 minimum.
Bien sûr.
Minimum.
Ouais.
Avec une... on l'entendait hier pendant les discussions après le premier tour, on n'est pas des Allemands, je trouvais que cette remarque était intéressante, on n'est pas un pays qui sait jouer du compromis, négocier à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais j'ai quand même envie de vous poser la question, dans l'état aujourd'hui des recompositions politiques, est-ce que c'est pas exactement ce qu'on doit apprendre, en fait? Est-ce qu'on n'est pas contraint d'apprendre ça, les négociations, les compromis?
Encore une fois, Emmanuel Macron, dans l'entre-deux-tours, a clairement ouvert la porte à, effectivement, cette proportionnelle intégrale, à un gouvernement d'unité nationale, peut-être pas de coalition. Il dit « je suis pas favorable au gouvernement de coalition parce qu'on n'est pas, à proprement parler, en France, dans un système parlementaire, on est dans un système présidentiel, donc c'est le président élu qui doit pouvoir diriger l'État et fixer la conduite de l'État. » Mais il a quand même laissé la porte ouverte à voilà, une autre façon de gouverner. Là où il est habile, et il fait ça sur tous les sujets, Emmanuel Macron, en réalité, c'est que il ouvre des portes quand il voit que ça peut lui être favorable électoralement, qu'il y a un mouvement dans la société, mais qu'il n'a pas de réponse immédiate. Il l'a fait au lendemain du premier tour sur les retraites, parce qu'il y avait une demande de l'électorat de gauche et une opposition à ce projet. Il l'a fait sur l'écologie, mais il ouvre des portes comme ça et il répond après. Donc pour l'instant, sur le renouveau démocratique, il laisse le sujet en suspens, on attend de savoir comment ça va retomber.
Yaël ?
Il y a l'enjeu des coalitions. Effectivement, c'est la démocratie parlementaire allemande.
À l'allemand.
C'est pas notre modèle, évidemment.
Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'on rentre en conclave pendant un mois, deux mois, trois mois, le temps de trouver effectivement.
Ça peut être très long de former un gouvernement.
Quelque chose qui satisfasse à peu près tout le monde.
Et c'est contre ce système-là que la Ve République a été créée, justement, parce que c'était devenu impossible de gouverner.
Ouais. Et donc la question, par exemple, des LR, on sait qu'il y a une crise énorme au sein du groupe Les Républicains en ce moment pour savoir qui va rester fidèle au LR, qui va aller chez Emmanuel Macron, éventuellement qui irait voir, pour l'instant on voit pas trop de signaux vers l'extrême droite, mais donc est-ce que le groupe Macron compatible qui va émerger à un moment donné, 20, 30 députés, on ne sait pas combien à l'issue des législatives, entrera dans une coalition de gouvernement avec Emmanuel Macron, ça par exemple c'est un débat qui n'est pas tranché du tout au sein de l'exécutif. Est-ce qu'il faut les absorber dans le mouvement unique et donc pas laisser la place, ça c'est typiquement la cinquième, on ne crée pas une coalition, on ne partage pas le pouvoir avec des alliés qui pourraient faire défection à un moment donné et donc fragiliser Emmanuel Macron, ou est-ce qu'au contraire on laisse respirer et on crée ces alliés provisoires, temporaires, qui vont aider Emmanuel Macron dans sa coalition. Il y a débat en ce moment, c'est de savoir si on fait l'UMP ou l'UDF aussi, c'est notre...
Et Emmanuel Macron a bien en tête qu'il ne pourra pas être candidat à sa succession en 2027 et que sa succession va entraîner forcément des compétiteurs, des écuries. Et il a aussi très peur d'une assemblée qui se transforme en petites écuries, une écurie de gauche, une écurie de droite avec Édouard Philippe, etc. Donc il a aussi ce danger-là face à lui. Il sait très bien que les 5 ans vont être aussi une longue course vers l'Élysée et ce parti unique qui fait quand même partie des discussions. Hein. On est entre la révolution culturelle, d'une nouvelle méthode pleine de concertation et l'envie d'un parti unique.
Retour au standard où nous attend Joël. Bonsoir Joël.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Écoutez, moi j'ai une réflexion à faire, ça ne va pas changer la face du monde, mais quand même je crois qu'il faut
si. On ne sait jamais Joël.
On ne sait pas. Je trouve les Français extrêmement ingrats de ne pas féliciter Emmanuel Macron aujourd'hui de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accompli, du travail qu'il a fait terrible sur ces quelques mois et sur ces quelques années également, et que quand même, il faut être conscient à un moment, s'en réjouir et s'asseoir, il a sauvé la France pour quelque temps, l'Europe aussi. La planète nous regarde et nous admire, et les Français font la gueule. Et moi, j'aime pas.
Alors, c'est ce que je disais en introduction. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des journaux étrangers qui sont nettement plus dithyrambiques que nous le sommes, nous, y compris d'ailleurs dans...
Et Joël parle comme le papa d'Emmanuel Macron,
ah oui,
qui dit que les Français sont ingrats avec son fils.
Voilà, enlevez votre masque, Joël, on vous a reconnu.
Non, moi, je me suis fait rabrouer pour avoir dit quelque chose sur les réseaux sociaux. J'ai eu le droit à quelques insultes, mais c'est classique hein, dans ce rôle-là. Parce que je me suis embarqué dans une réflexion sur Churchill. Et je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Churchill,
la fameuse phrase.
En 1945, Churchill est un héros de guerre. Un héros de guerre et qui est balayé par les travaillistes aux élections législatives en Grande-Bretagne. Donc, beaucoup de macronistes ont eu très peur, après les Gilets jaunes, après le Covid, qu'Emmanuel Macron soit l'incarnation des mauvaises années, des années de crise dont on ne veut pas se souvenir, dont on veut se débarrasser. Et qu'il soit balayé à son tour, alors qu'il aura tenu la gestion de crise pendant toutes ces années, qu'il soit balayé par le côté, il incarne donc les mauvaises années et il faut changer. Ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc l'exploit politique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir été réélu, hors cohabitation, ça on l'a dit, mais surtout en ayant incarné la crise, trois crises, y compris le Covid, y compris l'Ukraine aujourd'hui. Donc quelque part, l'exploit politique, il est quand même là.
Enfin, dans un contexte où il se bat contre le Rassemblement National, ce qui fait que la donne est de toute façon toujours une donne différente, en fait, Simon.
Juste deux choses sur ce que vient de dire Joël. D'abord, quand elle dit « il a sauvé la France », c'est la deuxième fois, en effet, qu'il bat le Rassemblement National au second tour de l'élection présidentielle. Mais souvenez-vous, en 2017, Emmanuel Macron, au lendemain de sa victoire, avait dit « mon défi, c'est que dans 5 ans, plus un Français n'ait aucune raison de glisser... »
Voter pour les extrêmes.
De glisser un bulletin pour les extrêmes dans l'urne. En effet, il a échoué manifestement. Tout le monde le reconnaît d'ailleurs autour de lui. Les militants avec qui j'ai discuté hier sur le Champ de Mars, aussi heureux étaient-ils de cette victoire, reconnaissent que ça a été un échec. L'extrême droite est au plus haut historique dans notre pays. Et Emmanuel Macron, certes, ne peut pas être tenu pour seul responsable de cette situation, mais dans son habileté politique, il a su jouer aussi, on l'a suffisamment dit, suffisamment commenté, il a su jouer de cette opposition avec les extrêmes. Et deuxième chose, sur voilà, les Français sont des ingrats, il faut aussi savoir se réjouir de cette victoire. Mais c'est justement la question qui existe aujourd'hui au sein même de La République En Marche et parmi les plus proches d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette victoire? Comment on en parle? Quels enseignements on en tire? Il y a ceux qui se sont réjouis, au goût de certains, un peu trop ostensiblement, de la victoire hier sur les plateaux, sur les réseaux, en disant « c'est un vote d'adhésion, il faut pas en avoir honte,
Bruno
il faut
être
heureux ». Oui, Aurore Berger, la députée également, vice-présidente du groupe à l'Assemblée. Et puis, il y en a d'autres qui disent « non, attendez, il faut jouer l'humilité, il faut écouter les abstentionnistes, ceux qui ont voté pour faire barrage à l'extrême droite et même l'électorat de Marine Le Pen ». Et ça, c'est, d'ailleurs, c'est plutôt le discours d'Emmanuel Macron hier soir sur le Champ de Mars.
Élodie ? Non, je sais pas, Joël disait l'ingratitude, c'est compliqué parce que on sent que là il y a vraiment une fracture avec alors on disait tout à l'heure deux France qui peuvent se faire qui se font face à face, je perds un peu mes mots, qui se font face.
La nuit était courte, non?
Oui, la nuit était un peu courte. il y a une réalité derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens moi que j'ai vu sur le terrain qui se sont sentis humiliés par ce quinquennat Macron et on peut pas les taxer forcément d'ingratitude aujourd'hui parce que il a géré le Covid, parce qu'il gère la crise en Ukraine. Ils ont des problèmes du quotidien qui n'ont pas trouvé de réponse pendant ces 5 ans, et surtout ils ne se reconnaissent pas dans le monde, dans ce qu'incarne Emmanuel Macron. Je pense que c'est quelque chose de très fort et de très fondamental. C'est tous ces gens, moi, qui m'ont dit on va voter Marine Le Pen, ou Jean-Luc Mélenchon, mais vu que j'ai pas suivi Jean-Luc Mélenchon, je peux moins le dire, mais on va voter Marine Le Pen parce que finalement elle nous ressemble. Et ça, ce sentiment-là, c'est pas de l'ingratitude, c'est quelque chose de profond.
Et c'est ce qui nous renvoie avec ce que vous nous disiez au début, Élodie, sur le fait que c'est pas effectivement, contrairement à d'habitude, les thèmes d'insécurité ou de sécurité qui ont poussé vers le vote Marine Le Pen.
En partie certainement. Hein, je veux dire que c'est
en tout cas beaucoup moins peut-être que les fois précédentes. Et en tout cas, ce que vous dites a beaucoup joué.
Et c'est le schisme raison contre ressenti. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si Emmanuel Macron veut rationaliser, vous vous souvenez, tous ces tableaux Excel pour dire que le pouvoir d'achat avait bien augmenté durant son quinquennat, à la virgule près, au pourcentage près, et le ressenti n'était pas là. Pierre Rosanvallon, le sociologue, a théorisé cette nouvelle manière de faire de la politique aujourd'hui et de l'ambiance en France, le ressenti l'emporte sur la raison. Et une fois tant qu'on n'a pas intégré cette nouvelle donne, on ne peut pas comprendre la flambée du vote RN.
Et je le dis au passage, Pierre Rosanvallon, c'est l'invité de Laura Adler tout à l'heure à 20h. Donc la conversation
pourra. Teasing est fait.
Exactement. Pourra se poursuivre. Vous vouliez dire quelque chose avant qu'on retourne au standard, Maxence?
Non, si hier à 20h, l'ambiance n'était pas à la fête, c'est aussi que les oppositions ont très bien joué leur coup. Marine Le Pen a pris la parole à quelle heure? 20h10.
20h10.
Et Jean-Luc Mélenchon derrière.
Et Jean-Luc Mélenchon a même pris la parole avant le résultat du second tour, puisque dès mardi, il appelait au troisième tour des législatives. Et donc, le contexte était assez particulier. Éric Zemmour a même fait une conférence de presse hier soir, ce qui n'arrive jamais. Il a perdu de loin. Et donc, l'ambiance était déjà à la contestation et au troisième tour qui s'installe dans le débat politique.
Macron a été trollé. C'est l'expression qui est utilisée par
troll comme sur Internet.
Troll, c'est-à-dire vous venez perturber l'événement qui est censé s'imposer dans les médias.
Xavier est avec nous. Bonsoir, Xavier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi je pense faire partie du scope, enfin de l'électorat donc d'Emmanuel Macron. Et cette année, j'ai vraiment hésité jusqu'encore 24 heures avant le deuxième tour. Je ne savais pas pour qui voter, enfin je voulais pas voter Macron. La raison fait que j'ai mis un bulletin pour Emmanuel Macron, et je suis assez quand même estomaqué. Enfin, j'ai été très déçu en entendant les commentaires, les réactions des uns et des autres hier soir. On entend que on prend en compte le fait que c'est un vote, utile pour faire barrage au Front National, mais c'est pas un vote d'adhésion. Et moi, ce que je disais à votre standardiste, c'est je suis pas quelqu'un qui suis habitué à manifester, etc. Mais demain, c'est sûr que demain, je me mobiliserai. Mmh. Parce que moi, je ne me reconnais pas du tout dans la France, dans le modèle que propose Emmanuel Macron et son ministre. McKinsey, enfin, cette gestion de la France, cette approche. Moi, je suis désolé, mais un de vos invités disait l'inventaire de la gestion de la crise Covid n'a pas été fait. Alors, peut-être qu'on peut reprocher ça donc auprès des autres partis politiques, hein, qui n'ont peut-être pas mis suffisamment le sujet sur la table, ou peut-être aussi une partie des journalistes, peut-être. Mais toujours est-il que, voilà, moi, je m'estime pas représenté. Et hier... Enfin, franchement, de plus en plus, je commence à me dire, moi, quand j'entends Mélenchon, je me dis, j'aurais jamais dit ça il y a quelques années, hein, mais oui, je commence à, ça fait écho, en tout cas, ça fait écho à ce que moi, je peux penser, voilà, de la situation. Et...
Merci, Xavier, on vous a entendu, merci beaucoup. Il y a beaucoup de Xavier, enfin, c'est compliqué, en fait, d'évaluer, non, mais évidemment, c'est compliqué d'évaluer les Xavier qui disent ça aux élections législatives avec leur vote, ceux qui iront le dire dans la rue aussi probablement assez vite, non
Simon, dimanche, aussi. 1er mai.
Le 1er mai, oui.
Déjà, et on est en plein dans ce que dit Xavier, dans l'inquiétude, mais qui est celle d'Emmanuel Macron et de ses partisans depuis plusieurs semaines, l'inquiétude, en cas de réélection, maintenant c'est fait, d'un début de quinquennat terrible sur le plan social et qui... empêche finalement de mener les réformes, c'est-à-dire qui pourrissent, si je puis me permettre, l'intégralité du quinquennat. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en a pris conscience après être rentré en campagne avec des mesures très identifiées à droite. Après, il a dit « on m'a mal compris, j'ai mal expliqué sur les 65 ans, sur les contreparties pour le RSA, etc. » En réalité, c'était bien sûr pensé avant le premier tour pour séduire l'électorat de droite qui aurait pu se porter sur Valérie Pécresse. Et ça a marché d'ailleurs. Mais derrière, il a très vite pris conscience que s'il ne redressait pas la barre, et il l'a fait dans l'entre-deux-tours à gauche, il y avait ce risque, effectivement, il y a toujours ce risque aujourd'hui, à entendre Xavier, d'un début de quinquennat qui soit très tendu sur le plan social. Et Emmanuel Macron dit aujourd'hui, dans les premiers mois, je vous promets, je vais être très précautionneux, le pays est très sensible.
C'est pour ça que le séquençage est très important.
Et c'est pour ça qu'il dit la réforme des retraites, par exemple, ce sera pas tout de suite.
Avant l'automne, maintenant, alors qu'au départ, c'était la priorité des priorités, il faudra le faire tout de suite, dès l'été. Maintenant, on n'en est plus du tout là.
Et c'est vrai que nous, services politiques, on aura peut-être un été assez calme parce qu'il n'y aura pas d'ordonnance, il n'y aura sans doute pas de grandes réformes durant l'été, rien en tout cas avant le 19 juin, avant les législatives. Il y a 65% des électeurs de Yannick Jadot qui ont voté Emmanuel Macron, il y a 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté Macron hier, selon notre enquête Ipsos Soprastérieure.
Et il y a aussi quand même, nos auditeurs l'ont remarqué, on disait il faut calmer le jeu, effectivement, à attendre l'automne. On a quand même la petite phrase de Bruno Le Maire sur le 49-3, au cas où. Alors je sais pas...
Il est mal passé.
Mais c'est ça.
Il a dit... si je puis me permettre, ses collaborateurs à Bercy étaient fous furieux parce que ce qu'on a retenu de cette déclaration, c'est on n'exclut pas le 49-3, donc évidemment, quand on connaît le caractère inflammable de cet outil, c'est parti très vite. Mmh. Mais derrière, il dit, je le souhaite pas à titre personnel. Et d'ailleurs, peut-être que dans une semaine, je ne serai plus ministre de l'économie.
Ça, très bonne question de Marc Fauvel, notre confrère, rendons hommage à l'étage de France Info en dessous, qui a piégé quelque part Bruno Le Maire. Parce que poser le 49-3, déjà, c'est remettre une pièce dans le risque.
Une sacrée pièce dans la machine, oui.
Hein, ça rappelle Édouard Philippe, le 49-3 inachevé pour cause de Covid. Tout s'est arrêté à ce moment-là pour la réforme des retraites. Ça rappelle, voilà, c'est effectivement, et ça devient un argument pour Jean-Luc Mélenchon qui dit, si vous voulez pas de 49-3, mettez un bulletin anti-49-3 dans l'urne les 12 et 19 juin.
Donc est-ce que ça veut dire, en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'on va, à partir de la semaine prochaine, parce que ça commence très très vite, entrer dans une campagne législative telle qu'on a rarement vu une campagne législative au Rassemblement National, Élodie, par exemple, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il y a un candidat à mettre dans chacune des circonscriptions? Est-ce que déjà l'ordre de bataille est là, ou est-ce qu'il va falloir travailler sur cet ordre de bataille?
On est presque prêt. Non, là, ils vont finir les pré-investitures. Ils vont se laisser un petit peu de champ quand même, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous l'avez peut-être, on l'a peut-être vu hier soir, Éric Zemmour qui, alors certes, a mis une baffe pour commencer son discours à Marine Le Pen en disant que ça faisait 8 fois que le nom Le Pen était frappé de la défaite, donc ça c'était pas très sympa. Et puis après, c'est en mode, il faut faire une coalition pour essayer que les patriotes...
Oui. Sauf que lui a fait 7%, donc on peut comprendre. Voilà, on peut comprendre donc, aussi qu'il a, il a envoyé quelques appels du pied. Pour l'instant, personne n'a répondu.
Non, non, ça.
Ce qui me semble être de bonne guerre.
Ça répond pas. Ça répond pas. Et pour l'instant, de toute façon, c'est un rapport de force. Néanmoins, il y a un moment, il va peut-être falloir dans certains endroits négocier. Peut-être que le RN soutiendra des gens de Reconquête qui auront été clairs pendant l'entre-deux tours, qui auront soutenu Marine Le Pen. C'est le cas, par exemple, d'un Stanislas Rigaud qui a tout de suite dit qu'il voterait Le Pen. Fait partie des gens qui pourraient très bien rejoindre une espèce de bannière. Enfin, en tout cas, ça, c'est le rêve de Marine Le Pen. Et puis voilà.
Et en 2017, ils avaient trouvé les 577 quasiment.
Ouais, bien sûr. Non, mais ils vont les trouver. Ils vont les trouver. Après, l'idée aussi, c'est d'imposer une nouvelle génération RN. C'est ça, le grand défi aujourd'hui, c'est d'avoir des nouveaux visages aussi qui peuvent constituer ce groupe.
Simon.
Vous demandiez à Élodie, est-ce qu'il y aura un candidat RN ou de cette coalition dite nationale dans chacune des circonscriptions? Du côté d'Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il y aura seulement un candidat? C'est ça la vraie question.
Il faut gérer le trop-plein.
Parce qu'en fait, il y en a trop. Ouais. Il y a Édouard Philippe qui va vouloir avoir le maximum de députés possible. Ça rejoint ce que disait Maxence tout à l'heure. François Bayrou et le Modem qui diront non, nous, on lâche pas nos circonscriptions. La République En Marche qui voudra reconduire tous ses sortants. Enfin, là,
tous les rallyés. Que Nicolas Sarkozy a décomplexé.
À qui il faudra trouver une place. Ça va être plutôt un casse-tête et, à mon avis, un bras de fer. On se souvient. Et ça avait été dit, et on le sait depuis qu'en 2017, François Bayrou et Richard Ferrand avaient failli en venir aux mains à cause de ces investitures. Là, ils seront encore plus nombreux autour de la table. Ça risque d'être très, très tendu. Il reste 7 semaines, c'est un délai inhabituellement long qui peut faire retomber, c'est la crainte autour d'Emmanuel Macron, le souffle de la victoire. Ça peut aussi attiser beaucoup, beaucoup de tensions.
Il y aura évidemment donc, Yael, un Premier ministre et même un gouvernement, évidemment, avant cette date-là.
Bien sûr, a priori en début de semaine prochaine.
Ouais, est-ce qu'on peut imaginer que le choix du Premier ministre, on a commencé avec ça, donc on va pouvoir finir avec aussi, est-ce qu'on peut imaginer que le choix du Premier ministre coupe l'herbe sous le pied des stratégies de troisième tour, que ce soit celle de Mélenchon ou celle de Marine Le Pen, si le choix est judicieux, est-ce que ça peut couper l'herbe sous le pied
On a connu, Édouard Philippe a servi à couper d'entrée de jeu l'herbe sous le pied du centre-droit et de la droite, qui était parti en guerre contre Emmanuel Macron. Lui avait déjà réussi
l'opéra sur la gauche. Parce que là, c'est l'herbe sous le pied de la gauche.
Oui, c'est-à-dire que voilà, il faut trouver cette personnalité qui embarrasserait au plus haut point le camp Mélenchon. Pour l'instant, on ne la voit pas. Ou alors c'est une ouverture qu'on n'a pas encore nous-mêmes imaginée, dont Emmanuel Macron a peut-être la clé.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier? Donc cette semaine, rien, puisque mercredi, il y a le dernier Conseil des ministres.
Proclamation, officialisation des résultats par le Conseil constitutionnel après-demain, mercredi. À partir de là, tout est possible. Démission du gouvernement, nomination d'un Premier ministre, mais il nous a été dit à l'Élysée que ça devrait attendre le début de semaine prochaine.
Mm-hmm. On avait l'impression que Jean Castex, y compris d'ailleurs ici sur France Inter, était assez pressé
demain soir, il a prévu un pot avec ses ministres et en fait, il a décalé son pot d'adieu parce que apparemment, il va encore rester quelques jours. Donc, le pot d'adieu à Matignon, ce sera plutôt en fin de semaine.
Ben, écoutez, nous, en tout cas, on se retrouve demain les uns les autres. On va parler des alliances avant les fameuses élections législatives. Évidemment, on n'a pas fini de parler politique au téléphone. C'est tant mieux. Merci à tous.
Merci
pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.